bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une campagne de vaccination en trois phases, du mois de janvier jusqu'au printemps. Le gouvernement français a détaillé hier son plan quand le laboratoire américain Pfizer revoyait à la baisse ses capacités de production pour lutter contre le Covid-19. Dans ce journal, nous irons en Allemagne où l'on produit des flacons pour les vaccins. Retour ensuite sur l'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing, l'un de ses prédécesseurs à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing est mort avant-hier soir. Un hommage donc d'Emmanuel Macron à minima, vous le comprendrez. Les détails ensuite du nouveau portrait social des Français, fait cette année par l'INSEE. L'Institut analyse notamment que les réformes de l'année dernière ont augmenté le pouvoir d'achat d'une certaine tranche de la population. Et puis les Français invités à donner leur avis sur la poursuite ou non de l'exploitation des plus anciens réacteurs nucléaires en service dans le pays. L'autorité de sûreté nucléaire est plutôt d'accord avec ce principe, vous l'entendrez dans moins de 10 minutes. Divisé de moitié, le laboratoire Pfizer a revu à la baisse le nombre de doses de vaccins anti-Covid-19 qu'il pourra produire d'ici la fin de l'année. Il cite des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement de matières premières et Pfizer vise donc 50 millions de doses contre 100 millions. La réalité, après les grandes annonces des laboratoires, car la production d'un vaccin mobilise de nombreux acteurs. Il faudra par exemple fabriquer des récipients qui vont accueillir ces milliards de doses. L'Italie, mais surtout l'Allemagne, compte quelques-uns des leaders de ce marché. Notre correspondant outre-Rhin s'est ainsi rendu à Mayence, où l'on trouve depuis 130 ans l'entreprise Schott. C'est un reportage de Ludovic Piétenu.
L'entreprise Schott est le plus gros producteur au monde du flacon pour vaccins. Les chaînes de production fonctionnent 24 heures sur 24 en Allemagne, en Hongrie et dans 7 autres pays. Et grâce à son usine en Chine, où est apparue la Covid-19, Schott a eu une longueur d'avance.
Au mois de novembre-décembre, si je me souviens bien, on parlait encore que d'épidémie à l'époque, très rapidement on a compris qu'on avait une grande responsabilité.
Le français Jean-Yves Grandemange est l'un des responsables du groupe.
Au mois de février-mars, les grands laboratoires nous contactent et nous disent voilà, donnez-nous des indications sur votre capacité à produire pour les livrer à horizon fin 2020, 2021, 2022. La magnitude de cette demande était énorme, naturellement.
50 à 100 fois plus que d'habitude. Schott a donc fait les comptes et s'engage à produire assez de flacons pour 2 milliards de doses de vaccins d'ici à la fin de l'année prochaine. Si certains pointent le risque d'une demande supérieure à l'offre, autrement dit la pénurie, ils n'y croient pas.
On a accéléré nos investissements, ce qui va nous permettre de subvenir à une partie des besoins du marché. Aussi, ce qu'on a fait avec nos deux principaux concurrents, l'entreprise Gerresheimer et l'entreprise Stevanato, on a fait un communiqué de presse pour dire qu'on allait mettre assez de flacons pour subvenir aux besoins estimés.
Et de leur côté, les laboratoires lancés dans cette course au vaccin rassurent, ils peuvent utiliser leurs flacons pour un vaccin plutôt qu'un autre et disposent de stocks considérables engrangés depuis des mois, voire des années.
Ludovic Piétenu. En France, la vaccination n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Le gouvernement dévoilait hier son calendrier qui comporte trois phases. Les résidents des EHPAD et leur personnel sont prioritaires pour le mois de janvier. En février viendront ensuite les plus âgés et les plus fragiles. Et puis le reste des Français devra attendre le printemps. Le Premier ministre a promis de la transparence à ce propos. Hier soir, c'est le président de la République qui s'exprimait également à 20h pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, chef d'État entre 1974 et 81, mort avant-hier à l'âge de 94 ans. Emmanuel Macron a promis de tout mettre en œuvre pour faire vivre la flamme du progrès et de l'optimisme qui animait VGE, sans pour autant jouer la filiation. Vous allez le comprendre avec ce verbatim de Rosalie Lafarge.
Ils ont beau avoir de nombreux points communs, Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, c'est un hommage presque lointain que rend l'actuel président à son prédécesseur, conscient du demi-siècle qui les sépare.
J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence et qui, sans doute, n'a pas toujours mesuré à quel point Valéry Giscard d'Estaing avait, pour elle, changer la France.
Et de dresser la liste peut-être encore trop méconnue de ce que l'on doit à l'ancien président, le vote à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel.
Il a présidé à une profonde mutation de notre pays. Il a regardé notre pays en face, avec les yeux d'une génération nouvelle qui a voulu le progrès sans sacrifier de sa liberté.
Alors évidemment, il est tentant de vouloir faire des parallèles, de voir dans la passion européenne de VGE soulignée par Emmanuel Macron, peut-être celle du président lui-même, d'apercevoir derrière le portrait d'un président réformateur parfois incompris les traits de celui qui lui a ravi le titre de plus jeune président élu. Mais Emmanuel Macron ne joue pas la filiation, il s'attache plutôt à saluer la trace que laissera l'ancien chef d'État.
Une vie Quelques jours et puis plus rien, écrivait Maupassant. Valéry Giscard d'Estaing, pour une fois, fera mentir son écrivain de cœur, car son legs de modernité demeurera.
Par pudeur, Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas d'hommage national, précise Emmanuel Macron. Il annonce donc un jour de deuil national mercredi prochain et un hommage au Parlement européen de Strasbourg début février.
Et d'ici là, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing se dérouleront demain dans l'intimité familiale à Autun, dans le Loir-et-Cher. Après la mort de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné en octobre dernier dans les Yvelines par un terroriste, près de 800 incidents ont été recensés par le ministère de l'Éducation nationale dans les établissements scolaires. Des provocations, des refus de participer, des apologies du terrorisme, incidents survenus pendant les hommages dédiés à Samuel Paty. Les sanctions vont de l'avertissement à l'exclusion définitive pour 44 élèves. La crise sanitaire, et particulièrement la première vague du printemps, a joué un rôle révélateur dans les inégalités sociales et économiques en France. L'INSEE le confirme avec son portrait social de la France 2020, portrait qui a été publié hier. L'Institut de la Statistique fait également le point sur les réformes de 2019 et leur impact sur cette année 2020, et surtout leur impact sur le niveau des Français, Anne-Laure Chouin.
Les réformes que l'INSEE qualifie de socio-fiscales en 2019 ont induit une baisse de 0,2 point du taux de pauvreté, une baisse qui peut apparaître modeste, mais que l'INSEE estime significative. Elles ont permis, ces réformes, aux ménages de gagner en moyenne 250 euros de plus par an, et parmi ces ménages, ce sont les personnes avec un emploi et les catégories dites intermédiaires, situées juste au-dessus du revenu médian, qui en ont le plus profité, avec un gain de 300 à 340 euros par an. En raison principalement de la baisse de la taxe d'habitation, de la CSG et des exonérations des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires. Quant aux catégories les plus modestes et les plus victimes du chômage, l'INSEE estime leur hausse de revenus de 160 à 280 euros annuels. Sur cette catégorie de population, l'Institut note que ce sont les augmentations des prestations sociales qui ont le plus d'effets positifs, or ces prestations ont été pour beaucoup gelées ou désindexées. Enfin, concernant les masses financières mises en œuvre lors de ces réformes, elles auront coûté au budget de l'État 8 milliards d'euros pour la réforme des prélèvements qui bénéficie plutôt aux classes moyennes et seulement 3,5 milliards d'euros pour celles des prestations sociales qui pourtant ont un effet plus direct sur les classes populaires. Quant aux effets à long terme de cette crise sanitaire qui pourrait bien rebattre les cartes en faisant exploser les inégalités, il reste à être mesuré.
Anne-Laure Chouin pour France Culture. L'autorité de sûreté nucléaire ouvre la voie à la prolongation des réacteurs nucléaires de 900 MW au-delà de 40 ans en France. Cela suppose d'intervenir sur 32 réacteurs parmi les plus anciens en fonctionnement. L'ASN demande d'ailleurs à EDF d'effectuer certaines vérifications techniques, Véronique Roberotte.
L'autorité de sûreté nucléaire demande notamment à EDF de revoir le niveau de sûreté des réacteurs face aux agressions internes ou externes. Inondations, séismes, incendies, il s'agit de tirer les leçons d'un accident comme Fukushima en s'assurant qu'il sera possible d'injecter suffisamment d'eau dans le cœur des réacteurs français en cas d'accident majeur. Il y a aussi la prise en compte de nouveaux enjeux climatiques, par exemple, risque de pénurie d'eau ou au contraire de submersion. Rémi Cato de l'ASN.
Le réchauffement climatique a évidemment un impact sur les centrales nucléaires et en fait il y a dans le cadre du réexamen deux étapes. Une première étape qui consiste à déterminer le niveau d'aléas climatiques auxquelles doivent faire face les centrales nucléaires et dans un deuxième temps, vérifier que les centrales peuvent effectivement faire face à ce niveau d'aléas et éventuellement les modifier pour renforcer leur robustesse.
Le défi industriel s'annonce considérable, insiste Bernard Dorozuc, le président de l'autorité de sûreté nucléaire.
Il s'agit du quatrième réexamen des réacteurs de 900 MW qui sont en nombre les plus importants. Il y en a 32. Et donc, c'est bien le volume de travaux les plus importants depuis 10 ans auquel EDF devra faire face sur le parc en exploitation, qui viennent bien sûr s'ajouter aux travaux réguliers qui sont réalisés dans les opérations de maintenance lors des arrêts de tranche. Donc le défi industriel est considérable. Dans les 5 années qui viennent, il est considérable.
L'ASN estime qu'il faudra multiplier par plus de 6 le volume des prestataires pour faire face aux travaux à mener sur les réacteurs nucléaires français.
ASN qui a par ailleurs lancé hier une consultation publique sur son site internet à propos de cette possible prolongation. Tous les films de Warner Bros. En 2021 vont sortir simultanément en salle, dans les cinémas et sur les plateformes de streaming. La société de production veut ainsi se protéger des aléas de la crise sanitaire. Rapidement, la météo du jour. pluvieuse sur l'est de la France, ciel variable ailleurs avec des températures homogènes. 4 degrés à Brest et à Strasbourg ce matin, 6 à Lille, à Paris et à Nevers, 8 à 12 degrés le long de la Méditerranée. C'est l'heure du journal.